Merci, Michael. Porte ouverte. L'association au service des chrétiens persécutés a dernièrement publié leur nouvel index, le nouvel index mondial de persécution des chrétiens. Et les auteurs remarquent qu'il y a une persécution plus étendue, plus profonde et plus violente. Il y a plus de chrétiens qui sont persécutés dans plus d'endroits. Les discriminations quotidiennes comme l'impossibilité d'avoir un emploi, de faire des études, d'avoir accès aux besoins essentiels parce qu'on est chrétien, grandissent. Et le nombre de chrétiens tués passe de 3066 en 2017 à 4305 en 2018. En résumé, les auteurs disent que 245 millions de chrétiens dans le monde sont fortement persécutés. Un chrétien sur neuf. Et il est vrai qu'il existe une persécution des croyants d'autres religions. Mais selon un député britannique, 80% des personnes victimes de persécutions religieuses sont des chrétiens. Alors que penser? Que prier pour ses frères et ses sœurs qui sont persécutés dans le monde? Et comment réagir quand nous-mêmes, quand nous devons faire face à l'opposition au travail, au lycée. Peut-être même pour venir à l'église ce matin, vous avez dû faire face à l'opposition. Nous lisons toujours le dernier discours de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus prépare ses disciples à son départ et à leur vie de disciples par la suite. Jusque-là, Jésus a eu beaucoup de mots de réconfort pour ses disciples. Ils sont sur le bon chemin. Jésus va revenir les chercher. Ils peuvent connaître Dieu leur Père intimement. Ils doivent rester attachés à Jésus comme des sarments à une vigne pour porter du fruit. Mais un homme averti en vaut deux. Et ici, Jésus va avertir ses amis les plus proches. Et ce message sombre nous implique aussi si nous sommes disciples de Jésus. Ou si nous sommes en train de nous renseigner sur la foi chrétienne. Voici un avertissement solennel. Est nécessaire. Donc je vous invite à prendre une Bible. Merci de tourner à la page 701. 701, c'est Jean 15. Et je vais lire à partir du verset 18. La page 701, je vais lire à partir du verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour le péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Je vais prier. À notre bon Père Céleste, comme Jésus équipait ses disciples, s'il te plaît, équipe-nous pour notre vie de disciples. Et si nous sommes en train de mener une enquête sur la foi chrétienne, s'il te plaît, donne-nous aussi de mieux connaître Jésus et ce que ça implique de le suivre. Amen. Amen. Notre premier titre de ce matin, ne trébuchez pas, ils vous détesteront comme ils ont détesté Jésus. Ne trébuchez pas. Est-ce que vous avez vu ça, chapitre 16 au verset 1? Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Jésus parle pour que ses disciples ne trébuchent pas. Il y a un danger réel, mais un homme averti en vaut deux, et Jésus prend le temps pour avertir ses disciples. Il les avertit que le monde les détesteront. Comme le monde a haï Jésus jusqu'au point de le crucifier sur une croix romaine, le monde va haïr les disciples de Jésus. Et pourquoi? Jésus le dit au verset 19. Le monde va haïr les disciples de Jésus parce que les disciples n'appartiennent plus au monde. Jésus dit qu'il a choisi ses disciples du monde. Ils ne font plus partie du monde en rébellion contre Dieu. Et cela engendrera la haine du monde. Celui qui sort d'un cartel de crime sera exclu et pourchassé. Son départ dénonce ce que le cartel fait et cela pose un danger au cartel. J'ai mis deux flèches dans les sens opposés parce que si on fait demi-tour, il y aura sûrement un conflit. Si le monde va dans un sens contre Dieu, mais les disciples de Jésus décident de faire demi-tour, alors ils montrent que le monde va en contre-courant. Il y aura forcément un clash. Et celui qui ne s'attache plus au monde, mais à Jésus-Christ, dénonce la direction du monde et son opposition à Dieu. À Jean 7, verset 7. Jésus dit, le monde me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Et en suivant Jésus, les disciples de Jésus veulent donner le même témoignage. Et donc Jésus avertit ses disciples, ne trébuchez pas, vous serez détestés comme on me déteste, dit Jésus. Mais le revers de la médaille, c'est dans le verset 20, Jésus dit, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il y a un revers de la médaille, parce qu'après son départ, les 11 disciples de Jésus qui écoutent ce discours, et je dis 11 parce qu'il y avait 12, mais Judas est parti pour trahir Jésus. Ces 11 disciples de Jésus vont devenir les apôtres, les premiers témoins de Jésus, les fondateurs de l'Église. Ils ont un rôle spécial en tant que témoins. Et ceux qui gardent ou suivent la parole de Jésus vont reconnaître aussi l'autorité confiée aux apôtres. Et ils garderont, ils suivront les paroles des apôtres. Donc, on voit un parallélisme entre Jésus et les apôtres. Ceux qui suivent Jésus suivront aussi ses disciples. Ceux qui s'opposent à Jésus s'opposeront aussi à ses disciples. Et les disciples ne doivent pas trébucher à cause de cette opposition. Au contraire, ils peuvent prendre de l'assurance de ce que, bien que d'autres les aient rejetés, Jésus les a choisis. Jésus les a choisis du milieu du monde. De plus, ils peuvent prendre de l'assurance de ce qu'ils ne sont pas en train de commettre une erreur, mais suivent le chemin de leur Sauveur et leur Seigneur. Alors, parce que Jésus parle à ses 11 amis les plus proches, les apôtres, qui seront envoyés en tant que premiers témoins de Jésus, fondateur de l'Église. Nous ne pouvons pas appliquer tout ce que nous lisons ici à nous. Mais aujourd'hui, il est vrai, que si nous sommes chrétiens, Jésus nous a choisis du milieu du monde. Le chrétien ne fait plus partie du monde en rébellion contre Dieu. Et le chrétien va devoir faire face à de l'opposition. Et peut-être avez-vous expérimenté l'opposition cette semaine, même ce matin pour venir ici. C'est pas facile parce que nous aimons appartenir, que ce soit au bureau, au lycée, dans une association, nous aimons appartenir au groupe. Et ça fait mal de ne pas appartenir, de ne pas être à sa place. Alors, il se peut que parfois j'ai l'impression de ne pas appartenir tout simplement parce que moi je ne suis pas très adepte socialement. Ou peut-être parce que je ne prends pas le temps de faire connaissance des gens, d'être à leur écoute. Mais, si nous avons l'impression de ne pas appartenir à cause de notre foi, alors nous avons raison. Jésus a choisi les chrétiens du monde. Nous appartenons déjà à Jésus. Ce qui est tellement plus précieux. Mais bon, ici, ça va plus loin qu'un sentiment de ne pas appartenir. Jésus dit que le monde détestera ses disciples, comme le monde a détesté Jésus. Alors, comment est-ce que Jésus explique cette opposition? Deuxièmement, ils vous détesteront comme ils ont détesté Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père. Et c'est un jugement choc de Jésus, surtout quand ce sont les autorités religieuses qui s'opposent à Jésus. Le verset 21, Jésus dit que ses opposants, qui vont aussi s'opposer aux disciples, ne connaissent pas Dieu. Verset 21, « Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne reconnaît pas Jésus. Et donc le monde s'oppose aussi à ses disciples. Et malheureusement, tristement, le rejet de Jésus multiplie cette culpabilité. Au verset 22 et 24, Jésus explique que sa venue, ses paroles et ses œuvres ont laissé le monde sans excuse dans leur rejet de Dieu. Quand Jésus dit au verset 22, « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. » Jésus ne veut pas dire que le monde serait innocent s'il n'était pas venu. Non, le monde est coupable de rejeter Dieu, de vivre sans lui, depuis nos ancêtres, Adam et Ève. Mais comme nous avons vu dans ce dernier discours de Jésus, connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Jésus nous montre Dieu le Père. Alors, rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu. Et donc, la venue de Jésus a tristement servi à confirmer le rejet de Dieu par le monde. La venue de Jésus, ses œuvres et ses actes laissent le monde coupable de rejeter la révélation la plus grande de Dieu. Mais même ce rejet ne sort pas du plan de Dieu. Le verset 25, c'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Ils vous détesteront comme ils ont détesté Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père. Et encore une fois, c'est un défi à notre société pluraliste. Beaucoup réclament connaître Dieu. Et Jésus dit, ceux qui s'opposent à lui s'opposent à Dieu. Jésus dit que ceux qui s'opposent à lui ne connaissent pas Dieu. Alors les disciples, comment doivent-ils réagir à cette opposition? Le verset 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Ne trébuchez pas, dernier titre. Ne trébuchez pas, mais rendez témoignage avec le Saint-Esprit. Face à cette opposition, les disciples ne doivent pas fuir pour se protéger. Ils ne doivent pas prendre refuge dans des ghettos chrétiens. Premièrement, ils doivent savoir, face à cette opposition, premièrement, ils doivent savoir que Jésus envoie l'Esprit qui va témoigner de Jésus. Alors, si vous êtes là depuis le début de nos messages dans l'Évangile de Jean, nous avons déjà vu ce mot « défenseur ». Le mot « défenseur » qui décrit le Saint-Esprit de Dieu. Jésus quitte ses disciples, mais il ne les laisse pas seuls. Il envoie l'Esprit Saint de Dieu qui restera avec eux éternellement. Dieu lui-même qui vient vivre en eux. Le mot défenseur essaie de traduire un mot grec. Et comme Trevor a dit il y a quelques semaines, selon les traductions de la Bible, nous lisons soit défenseur, soit consolateur, soit conseiller, sans doute d'autres termes encore. Et il y a l'idée d'un ami, un conseiller qui se met à notre côté, qui nous aide, un ami qui nous représente, qui nous fortifie, un ami qui, devant le juge, plaide notre cause, qui nous défend et qui nous encourage. Devant cette opposition, Jésus rappelle qu'il enverra le défenseur, le Saint-Esprit. Et ici, nous voyons un des rôles primaires du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus. De Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, rendre témoignage de Jésus. Ce qui est une bonne nouvelle. Bien que le monde déteste Jésus, bien que le monde s'oppose à Jésus et à ses disciples, Dieu envoie son Esprit Saint pour rendre témoignage à Dieu. Dieu va continuer à rendre témoignage de Jésus au travers de l'Esprit pour que le monde reconnaisse Jésus, pour que le monde fasse demi-tour. Jésus rappelle que Dieu va envoyer le défenseur. Mais deuxièmement, c'est fortifié, équipé par l'Esprit Saint que les disciples rendront témoignage de Jésus. De Jésus, le verset 27, « Vous aussi, vous me rendrez témoignage pour que d'autres ne persistent pas dans leur opposition contre Jésus, mais qu'ils reconnaissent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Et donc, face à l'opposition, les disciples ne doivent pas fuir ou se cacher pour se protéger. Mais face à l'opposition, les disciples ne sont pas seuls. Les disciples ne sont pas seuls, mais Jésus les appelle à rendre témoignage de lui avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis, troisièmement, face à cette opposition, les disciples ne doivent pas trébucher, baisser les bras, abandonner la foi. Jésus les avertit d'une opposition virulente. Ils seront exclus des synagogues, le centre de la vie culturelle et culturelle. Et une opposition qui va jusqu'à la mort elle-même. Mais Jésus dit à ses disciples, il y a pire que l'opposition, ce serait de trébucher et abandonner la foi. Et donc Jésus avertit ses disciples pour qu'ils ne trébuchent pas, mais pour qu'ils témoignent. L'opposition qu'ils vont souffrir ne sera pas une surprise ou une erreur. Et c'est parce que les premiers disciples de Jésus ont bien capté ce message que nous sommes ici, aujourd'hui, ce matin. C'est parce que les premiers disciples de Jésus n'ont pas trébuché devant l'opposition qu'ils ont souffert que nous sommes ici, ce matin. Et donc, la première application de ces mots pour nous, c'est la reconnaissance. Si un homme averti en vaut deux, 11 disciples avertis en valent tous les milliards de chrétiens qui ont vécu depuis, y compris vous et moi, si nous sommes chrétiens ici ce matin. Si nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus, c'est parce que ses disciples, ses apôtres de Jésus n'ont pas trébuché devant l'opposition, mais ils ont rendu témoignage de Jésus. De plus, dirigés par le Saint-Esprit, ils nous ont écrit leur témoignage de la vie, de l'enseignement de Jésus pour nous rendre témoignage. Et nous pouvons en être reconnaissants. Soyons reconnaissants, mais soyons avertis aussi. Jésus a écrit son évangile afin de nous montrer, Jean nous a écrit son évangile afin de nous montrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous pouvons avoir la vie. C'est Jean 20, verset 31. Mais avoir la vie, ça ne veut pas dire une vie de facilité ou de confort, de tranquillité. Il s'agit de connaître Dieu, Dieu notre Créateur. Il s'agit de connaître Jésus, ce qui nous met en opposition avec un monde en rébellion contre Dieu. Et donc Jean est en train de nous inviter à croire en Jésus, mais aussi par ses paroles, il est en train de nous avertir de l'opposition. Il est en train de nous donner des attentes justes. Ils vous détesteront, comme ils ont détesté Jésus. Mais ne trébuchez pas, mais rendez témoignage de Jésus par l'Esprit. Et donc, si vous êtes en train de réfléchir sur la foi chrétienne, si vous réfléchissez au baptême, je ne peux que vous exhorter à croire en Jésus. Mais il nous faut avoir les attentes justes pour être prêts pour l'opposition au travail, dans une association, avec nos collègues, peut-être à la maison. Jésus nous donne les attentes justes, bien que la réalité dépend de notre situation. Dernièrement, nous avons connu un jeune homme qui a dû quitter son pays et sa famille parce qu'il a décidé de suivre Jésus. Mais je pense aussi à un jeune lycéen qui a été appelé pour la première fois depuis le directeur de son lycée parce qu'il voulait lancer un groupe qui lisait, qui discutait la Bible avec ses amis au lycée. Devenir chrétien d'un arrière-plan catholique peut mériter la mise à l'écart par sa famille. Ou parfois, tout simplement, l'indifférence de nos proches qui peut faire mal aussi. Il faut être lucide pour vérifier si l'opposition vient d'être fidèle à Jésus ou parce que je suis maladroit ou offensif. Mais si nous décidons de suivre Jésus, c'est un choix qui nous met en opposition avec le monde qui nous entoure. Et la semaine dernière, nous avons compris que nous devons rester attachés à Jésus-Christ, comme des sarments qui sont attachés à la vigne. Devant l'opposition, nous devons aussi rester attachés à Jésus. Donc soyons reconnaissants, soyons avertis, soyons aussi solidaires. Parce que les 245 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde, ils vivent ce que Jésus a prédit. Et c'est tout à fait humain, je pense, de prier que ces personnes soient retirées, sauvées de la persécution qu'ils subissent. Mais prions d'abord qui ne trébuche pas, mais qui reste attaché à Jésus. Prions même qu'au milieu de la fournaise de la persécution, il puisse rendre témoignage à Jésus par le Saint-Esprit. Vous pouvez regarder le site web de Porte Ouverte. Il y a le calendrier de l'Église. Et de temps en temps, il y a des sujets de prière qui viennent de Porte Ouverte. Nous prions pour les chrétiens persécutés. Reconnaissant, averti, mais aussi solidaire. Ne trébuchons pas. Ils vous détesteront comme ils ont détesté Jésus. Mais rendons témoignage de Jésus par l'Esprit. Prions, prions ensemble. Notre bon Père Céleste, tu connais l'opposition à laquelle nous devons faire face. Et nous prions, nous te demandons de nous fortifier et de nous aider à rendre témoignage de Jésus avec l'aide de ton Esprit. Et s'il te plaît, pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, s'il te plaît, fortifie-les pour qu'ils ne trébuchent pas et pour qu'ils aussi rendent témoignage de Jésus même devant leurs oppresseurs. Et nous prions ça à ta gloire. Amen. Amen.